Les Canuts, première partie, chapitre 4. Longtemps avant midi, par les rues et les quais, une foule endimanchée se bousculant, se pressait en troupeau, hâtant le pas vers la place Bellecour. Au loin, déjà, s'entendaient les sonneries de clairons, alertes et gaies, alternant avec le bruit sourd et rythmé des tambours battant la marche. Et, par intervalles, une musique militaire éclatait, joyeuse, donnant des jambes aux enfants que les mères tiraient après elles. Le général Ordonneau, nommé commandant en chef de la garde nationale de Lyon, et arrivé de Paris la veille, allait passer en revue la milice citoyenne. M. Victor Jacquemin avait déjeuné à 10 heures et était allé rejoindre son bataillon. Il faisait un temps humide et un ciel brumeux. L'été de la Saint-Martin avait passé, emportant le dernier soleil et les dernières feuilles. Madame Jacquemin et sa fille s'étaient décidées à rester chez elles, quai d'Orléans. Dans l'appartement, au premier, le grand salon, aux meubles de velours rouge, orné de glaces de prix et de médiocres peintures, prenait jour sur le quai par 4 hautes fenêtres, garnies de rideaux de damas, surmontées de lambrequins. Au coin de la cheminée, où brillait un feu clair, Madame Jacquemin, qui avait fait sa toilette dès son lever pour aller à la messe, se tenait droite sur son fauteuil, dans une robe de soie lilas foncé, dont les manches bouffaient démesurément. Immobile, son profil maigre se détachant sur la grisaille de la tapisserie, elle lisait un volume de Chateaubriand, dont elle coupait les pages d'un mouvement rapide. De temps en temps, interrompant sa lecture, elle penchait son buste osseux vers la pendule, puis sortait pour donner un ordre. Le dîner de 2 heures avait été renvoyé au soir à cause de la revue, et l'on devait recevoir quelques amis. Marthe avait fourragé dans ses morceaux de musique, s'était assise au clavecin, et avait commencé l'ouverture du calife de Bagdad. Puis, ennuyée, elle avait jeté la partition sur un tabouret, dans un coin, et s'étirait les bras avec un bâillement. « Marthe, tu ne continues pas ? Tu n'es pas persévérante, mon enfant. Maman, j'ai mal au nerf. » Et se levant, la jeune fille s'approcha d'une fenêtre et se mit à tambouriner sur les vitres. Grande pour ses 17 ans, mais trop mince et point formée, avec des traits sans caractère et les cheveux relevés sur la tête, elle n'était ni jolie ni laide. Habillée aussi depuis le matin, elle portait une robe verte à jupe courte, laissant voir des brodequins du même vert, et un corsage couvert d'un canezou blanc plissé et montant, à longues manches très bouffantes du haut et collantes à l'avant-bras. Un ruban vert était noué au bas de sa collerette et un petit tablier en foulard fond chamois complétait cette mise prétentieuse. Madame Jacquemin, qui faisait de la toilette moins pour elle-même que pour tenir son rang, avait rendu Marthe fort vaniteuse. Ce serait une héritière. Il fallait qu'on le sût. La jeune fille avait eu les mêmes maîtres que les filles des premières familles de Bellecour. Mais, quoiqu'elle n'eût jamais été malade, son père, pour ménager la santé frêle de son unique enfant, n'avait pas voulu qu'on la poussât. Fort indolente à l'étude, elle ne mettait d'ardeur qu'aux distractions mondaines. Au dehors, le temps restait maussade. La Saône roulait des eaux limoneuses. Sur la rive opposée, le coteau de Fourvière s'enveloppait d'une teinte grise uniforme, où de rares maisons neuves faisaient des trouées blanches. Le quai n'avait plus l'animation des beaux jours d'automne. Sous les arbres dépouillés de feuilles, des gens passaient en famille, le parapluie sous le bras et l'allure frileuse. Et sur cette tristesse des dimanches d'hiver, le carillon de Saint-Nizier égrenait le paternoster d'un rythme lent et monotone. Marthe demeura longtemps le front collé à la vitre, derrière le rideau soulevé, bâillant d'ennui et ne se décidant à rien faire. Elle fut comme tirée d'un rêve lorsqu'elle entendit Pierrette annoncer « Monsieur Pellegrin, madame !» Se retournant, elle vit le jeune homme s'avancer vers sa mère, très cérémonieux et mis avec une grande recherche. Sur un gilet chamois, une courte redingote bleue serrée à la taille et fermée par de petits boutons dorés, un pantalon gris à dessin en biais, une cravate amarante, dont les bouts s'étalaient sur la poitrine, un chapeau gris haute forme et des gants chamois. C'était un assez joli garçon, mais ses cheveux partagés au milieu du front et trop frisés, ses courts favoris noirs peignés aux cosmétiques, donnaient un air bellâtre à son visage au profil droit. Quand il eut salué Marthe, Madame Jacquemin, sans se lever, lui indiqua un fauteuil à l'autre bout de la cheminée. La jeune fille, que cette visite amusait, vint s'asseoir près de sa mère. « C'est aimable à vous, monsieur, » dit Madame Jacquemin avec un mince sourire, « de vous priver de la revue pour venir nous voir. » Pellegrin se confondit en politesse. C'était trop d'honneur pour lui qu'elle voulût bien l'accueillir. Il ne connaissait pas de plus agréables instants que ceux qu'il passait chez elle. Puis il s'informa de M. Jacquemin et le plaignit de la corvée à laquelle il était contraint. « Oui, » dit Mme Jacquemin, « heureusement, il se porte à merveille. » Pellegrin souligna ces mots d'un signe de tête, plein de respectueuse satisfaction, et émit l'opinion que cette exhibition militaire se produisait au moment opportun pour tenir en respect les ouvriers surexcités par des meneurs. La conversation tombait inévitablement sur la crise industrielle. Le commis de M. Jacquemin ne croyait pas au plus léger désordre. Les canuts ne se mutineraient jamais sérieusement. Ils pouvaient faire grève, ce ne serait pas de longue durée. Quand ils n'auraient plus le sou, quand la huche serait vide, que les marmots crieraient la faim et que le boulanger ne ferait plus crédit, tous reviendraient au magasin, demander du travail. Et, avec un demi-sourire plein de suffisance, il continua. Les chefs d'atelier avaient grand tort de se plaindre. Ils étaient le plus heureux du monde, passaient leurs après-midi à jouer aux boules et à faire la fête, tandis que les compagnons et les apprentis travaillaient pour eux. À l'entendre, M. Jacquemin avait été trop bon d'accepter le tarif. C'était pour lui une perte sèche, dont nul ne lui saurait aucun gré. Avec son adresse, son ambition de subalterne, Pellegrin, depuis son entrée dans cette maison, avait compris qu'il y aurait un parti à tirer de l'orgueil de Madame Jacquemin. Dès lors, il s'était appliqué à chercher une occasion favorable et l'avait trouvée. En provoquant la rupture entre les deux frères, et sans qu'il s'en fût expliqué ouvertement, il s'était rendu agréable à cette femme que des parents pauvres gênaient. Il s'en était fait une alliée. N'était-ce pas le plus sûr moyen d'entrer plus avant dans les bonnes grâces du mari, de gagner sa confiance et devenir son bras droit? Mais il visait plus haut. Mademoiselle Marthe serait un beau parti. Pourquoi ne chercherait-il pas à l'épouser? Certes, on aurait vu des choses plus surprenantes qu'un commis épousant la fille de son patron. N'avait-il pas plus d'esprit et de tournure que la plupart des beaux fils qu'il rencontrait dans le monde? Et, avec une persévérance de tous les instants, il mettait tout en œuvre pour atteindre son but. Respectueux et docile envers monsieur, il se montrait prévenant et obséquieux avec madame, lui faisait de fréquentes visites. Elle le trouvait charmant, spirituel, de bonne éducation, de parfaite tenue, et n'en demandait pas davantage. Il était pour elle une gazette vivante, la mettait au courant des réunions mondaines où il se faisait inviter à force de petites intrigues, parlait peinture et musique, lui apportait les nouvelles des théâtres et donnait à son salon, quand elle recevait, une sorte de vernis littéraire. À 28 ans, ce garçon sans cœur et sans préjugés, qui reniait sa mère et s'était décrassé de son humble origine, connaissait toutes les petites vanités féminines et savait en tirer un merveilleux parti. Pourtant, il n'était pas heureux. Quand il rentrait dans sa pauvre chambre, souvent l'estomac vide, il souffrait de s'être frotté aux riches et ne se consolait d'endurer la faim pour payer son tailleur qu'en se cramponnant à ses projets ambitieux et rêvant de posséder un jour tout ce qui lui manquait aujourd'hui. Comme de coutume, Madame Jacquemin s'informa de ce qu'on donnait au théâtre et des pièces qu'il fallait voir. Le jeune homme parla des comédiens, du mariage d'argent, du comte Horry, des voitures renversées. Mais il se passionnait pour le drame d'Antony et pour Le secret du ménage, où Mademoiselle Elisa Wenzel faisait une dame d'Ormeuil des plus séduisantes. Malgré la sotte réputation qu'on avait faite aux Lyonnais, ils aimaient toujours la comédie, quand elle était bien jouée. Madame Jacquemin lui dit qu'elle avait conduit sa fille à l'exposition des Beaux-Arts, qui venait d'ouvrir au Palais Saint-Pierre. Ces dames avaient vu des toiles de M. Bonnefond, de M. Saint-Jean, de M. Billard, de M. Genot. Le prisonnier d'État sous Louis XIII et le soldat blessé de M. Genot, dit Pellegrin. Très remarqué, et avec raison. M. Genot ne pastiche plus Revoile. Quant à Jacquemin, il a toujours le tort de pasticher Fleury Richard. Il y a aussi des paysages très lumineux et très aériens de M. Fonville. Sa grotte de Posilippe, par exemple. Ma fille s'est beaucoup intéressée à la vue de Perrache et au pont de Serein de M. Guindran. Ils sont en effet charmants de facture et de couleur locale. Mais le Spartacus de M. Foyatier domine cette exposition de toute sa hauteur. Marthe prêtait l'oreille vers l'antichambre. « Voilà papa et ses messieurs, » dit-elle. Sa mère jeta un coup d'œil sur la pendule. « Déjà ? » fit-elle gaiement. « Le temps passe si vite en causant. » Dans l'entrebâillement de la porte, M. Jacquemin parut, en costume de garde national, l'habit de drap bleu à la française, garni de passepoil rouge, le pantalon à liseré rouge et le shako évasé. « Ma chère amie, je t'amène tes convives !» M. et Mme Pallia, suivis de M. Berthoux, vinrent saluer ces dames, qui s'étaient levées pour aller à eux. La maîtresse de la maison leur tendit la main et montra des sièges à ces messieurs, après avoir fait asseoir Mme Pallia dans le fauteuil que Pellegrin avait occupé. « Ma chère amie, reprit brusquement M. Jacquemin, je te préviens que ta sœur ne viendra pas. Les argentioles ne seront pas non plus des nôtres. Je t'expliquerai pourquoi. Ah ça, il pleut à verse. Vous n'avez pas l'air de vous en douter là-dedans. Ces messieurs ont fait peau neuve et nous venons en voiture de la rue Royale. Mais moi, je suis encore trempé comme une soupe, et je vous demande la permission d'aller changer de vêtements de la tête aux pieds. » Pellegrin, gêné et craignant de paraître indiscret, se disposait à prendre congé. Mais la maîtresse de la maison ne voulut pas qu'il sortît par un temps pareil. Il fit mine de résister, s'excusa, et l'on finit par le retenir à dîner. « Oui, oui, restez, Pellegrin, » dit M. Jacquemin, sortant du salon. « Nous aurons à causer tout à l'heure. » La femme de chambre avait allumé les candélabres et remis du bois dans la cheminée. Tandis que Mme Jacquemin faisait approcher du feu ses convives, les conjurant de ne pas garder les pieds humides, elle s'étonnait de l'air agité de son mari, qui n'avait pas pris le temps de s'expliquer. Pourquoi, au lieu de rentrer directement, avait-il accompagné chez eux ces messieurs, qui étaient allés comme lui à la revue? Pourquoi avait-il passé chez sa sœur? Et comment savait-il que les Argentioles ne viendraient pas? Tout cela n'était pas naturel. Aussi, les premières politesses échangées, elle demanda ce qui s'était passé à la revue. M. Pallia et M. Berthoux se regardèrent, perplexes. Ce fut Mme Pallia qui rompit le silence. « Ah, ma chère, » dit-elle en hochant la tête, « et il se prépare de graves événements. » Et ses yeux incomparables, qui avaient survécu à sa beauté, se tournèrent vers son mari comme pour l'engager à parler. Alors, il raconta ce qu'il savait. Cette revue venait de mettre aux prises tous les éléments de discorde de la population. Beaucoup de chefs d'atelier, faisant partie de la milice citoyenne, portaient l'uniforme prescrit par la dernière loi sur la garde nationale. Les fabricants, au contraire, et tous les gens riches, qui s'étaient équipés au lendemain même de la Révolution de juillet, portaient l'uniforme de la Restauration. Or, cette différence de costume avait donné lieu, de la part de quelques-uns de ces derniers, à de sottes plaisanteries, auxquelles les ouvriers avaient répondu par des menaces. « On verrait bientôt, » avait-il dit, « si tous ces mirliflores feraient aussi belles jambes au feu qu'à la parade. » Il n'en fallait pas davantage pour enflammer les poudres et amener un conflit terrible. L'air consterné, n'osant pas en dire davantage, M. Pallia baissa la tête, les yeux fixés sur le brasier, comme s'il y eût entrevu des brandons de guerre civile. Mme Jacquemin fit un geste d'insouciance. « C'est vrai, madame, » dit M. Berthoux. « Le vote du tarif a donné de l'audace aux orateurs de cabaret et aux instigateurs de rassemblement. Il a découragé la plupart des fabricants qui ne peuvent plus faire travailler aux conditions actuelles. Les métiers ont cessé de battre. Et après l'allégresse du premier jour, que j'avais partagée moi-même, c'est maintenant une inquiétude générale. Vous concevez que, dans cette situation, le moindre incident pouvait tout gâter. C'est ce qui vient d'arriver à l'instant. Après la revue, de nombreux attroupements se sont formés, à Bellecour d'abord, puis dans les principales rues. Déjà, on raconte dans les groupes qu'un patron aurait reçu ses ouvriers avec des pistolets chargés sur sa table. Qu'un autre se serait écrié « Si les canuts n'ont pas de pain dans le ventre, nous y mettrons des baïonnettes !» Enfin, qu'un fabricant délégué, M. Charles Lapouli, aurait dit au préfet « Donnez-moi des cartouches et j'aurai bientôt dissipé les mutins. » Colporté de bouche en bouche, ces propos causent de fâcheuses rumeurs. Les esprits s'aigrissent, les têtes se montent, et des bandes d'ouvriers viennent de se répandre dans le quartier des Capucins, criant « À la lanterne, au Rhône, la poulie !» Le nom même de M. Argentiole qui a refusé de se soumettre aux tarifs, a été prononcé avec menace. Voilà pourquoi, madame, nous n'avons pas le plaisir de l'avoir parmi nous. Il a voulu se rendre à son magasin et y passer la soirée, dans le cas où l'on ferait contre lui quelques tentatives de violence. À la bonne heure, fit madame Jacquemin. C'est un homme de courage, celui-là. Et s'adressant à son mari, qui venait de rentrer en pantalon gris et redingote verte à collet de velours, « Alors, c'est à cause de ces rassemblements que tu es allé prier ma sœur de rester chez elle ? Vraiment ? Mais, messieurs, ajouta-t-elle avec ironie, il me semble que vous vous exagérez singulièrement les choses. Il y a 8 jours, la garde nationale n'a-t-elle pas dispersé des groupes de tapageurs sur la place des Terreaux ? Et tout n'est-il pas aussitôt rentré dans l'ordre ? Ma chère amie, dit sèchement M. Jacquemin, ces messieurs t'ont dit leur opinion. Tu peux les croire. La situation est grave. Rien n'est encore compromis, sans doute, mais il faut s'attendre à tout. Je le crains, fit Mme Palia. Pierrette venait d'annoncer que Madame était servie. Ce n'est pas une raison pour ne pas dîner ce soir, reprit M. Jacquemin, avec un effort de gaieté, en offrant le bras à Madame Palia. On passa dans la salle à manger. Madame Jacquemin retint à sa droite M. Palia, qui l'avait conduite à table, et plaça M. Berthoux à sa gauche. Son mari prit à sa droite Madame Palia et à sa gauche la jeune fille. Pellegrin, qui ne disait mot et observait, se trouva casé auprès de Marthe. Dans cette pièce confortable, d'une tiédeur de serre, entourée de boiseries de chêne et de bahuts à colonnes couverts d'anciennes faïences, devant la nappe damassée où brillait, au feu des bougies, un luxe bourgeois d'argenterie et de cristaux entre des pyramides de gâteaux, de poires et de raisins, ils sentirent se fondre leurs appréhensions et un bien-être les envahir. Dès le potage, la conversation prit un autre tour. En amis de 20 ans, ces dames échangèrent des compliments sur leur toilette. Dans sa robe de cachemire cendré, à pèlerine, avec un fichu blanc à petite garniture brodée et drapée autour du corsage, Madame Palia était encore ravissante, en dépit de ses 48 ans. Elle avait rendu son mari heureux, et lui avait été utile dans ses affaires par la façon charmante dont elle recevait. C'était une femme d'intérieur qui ne manquait pas d'esprit, mais ne cherchait pas à le montrer et se contentait d'avoir un tact exquis en toutes circonstances. « Ma chère, répondit-elle en souriant de ses beaux yeux à un mot aimable de son amie, mon mari tient à ce que je sois toujours mise convenablement. Puis, dans sa situation, il craindrait qu'on l'accusât de ne pas encourager les affaires. Et je vois que M. Jacquemin pense de même. Elle est délicieuse, votre robe lila. » Pierrette servit un filet aux champignons que M. Jacquemin se fit apporter devant lui et, la serviette au menton, se mit en devoir de découper. Je causais tout à l'heure avec M. Pellegrin de la saison théâtrale, reprit la maîtresse de la maison. Il paraît qu'elle s'annonce brillante. On offrit du Bordeaux. Pouf, dit M. Berthoux qui faisait honneur au filet. M. Singier s'est décidé à donner quelques nouveautés. Mais le vrai succès sera pour Notre-Dame de Paris, qu'on répète en ce moment. Girel doit faire Quasimodo, et Valmore, Claude Frollo. Quant à Mademoiselle Ambroisine, elle prêtera le langage expressif de sa pantomime au beau rôle d'Esmeralda. « Comme vous êtes au courant, » fit Madame Jacquemin. « Et comme vous semblez vous intéresser à la pantomime expressive de Mademoiselle Ambroisine, » ajouta Madame Palia. Les artistes savent s'apprécier entre eux, fit observer M. Jacquemin, toujours préoccupé. Avec cette différence, dit M. Palia, qui venait de retrouver dans son verre de Bordeaux son sourire à fossette, que M. Berthoud est artiste jusqu'au bout des doigts, tandis que Mademoiselle Ambroisine l'est jusqu'au bout des pieds. Oh oh! Que dirait ce pauvre Argentiole s'il était là? M. Argentiole ne plaisante jamais. Aussi, les canuts qui n'aiment pas les visages rébarbatifs. Madame Palia coupa la parole à son mari. Elle ne voulait pas qu'il dît du mal des absents. Le gros fabricant n'insista pas. La femme de chambre venait de passer un brochet sauce capre qui lui ôtait l'envie de médire davantage. Madame Jacquemin, en veine d'amabilité, félicita M. Berthoud de la toile qu'il venait d'exposer au Palais Saint-Pierre. Mais il dit que ce n'était rien. Une brassée de fleurs des champs dans un coin de paysage. Une simple étude. Une carte de visite, pour ne pas avoir l'air de déserter l'exposition. Car il n'avait rien pu terminer de sérieux avant le délai de rigueur. Ses dessins pour la fabrique l'absorbaient entièrement, et il ne faisait plus que du métier. « Oh, vous vous dénigrez! Vos fleurs sont ravissantes, et votre bouquet des champs est composé avec un goût. N'est-ce pas, monsieur Pellegrin, vous qui êtes connaisseur ?» Pellegrin approuva discrètement. Il se sentait trop jeune pour apprécier l'œuvre d'un artiste déjà mûr. Du reste, il ne perdait pas son temps. Peu à peu, Marthe s'était apprivoisée. Il était gentil pour sa voisine, lui offrait à boire, l'amusait comme une enfant et, à demi-voix, lui contait de vieilles histoires de canuts qui la faisaient rire aux larmes. « Vous reviendrez à ce brochet, monsieur Palia. Allons, je vous en prie. » Madame Palia déclara le brochet excellent. Ces dames se lancèrent alors dans d'interminables recettes de cuisine, tandis que M. Jacquemin donnait à Pellegrin quelques détails sur les incidents qui s'étaient produits à la suite de la revue. Pierrette servit des épinards au jus relevés de croûtons dorés. Enfin, Loire rôti fit son entrée triomphale. « Le rôti de la saison, » dit Mme Jacquemin. M. Palia protestait que, de sa vie, il n'avait vu d'oie plus appétissante. Décidément, cette cuisinière était née rôtisseuse. Le Bourgogne emplissait les verres. M. Berthoud, très gai, racontait maintenant des aventures de rapins qui obtenaient un grand succès. M. Jacquemin lui-même se déridait. À la salade, il ne pensait plus à la crise ni à l'incident de la revue et versait généreusement à boire à ses convives. « Quel dommage !» dit Madame Palia compatissante, « que les Argentioles ne soient pas des nôtres. » La femme de chambre rentrait, apportant une île flottante, que M. Palia lorgna tendrement et qu'elle plaça en symétrie avec une timbale de chou. « Ce pauvre monsieur Argentiole, » reprit monsieur Berthoud faisant l'enfant terrible. « Il me fait songer au juge Olifour, que Scribe et Aubert ont mis en scène dans « Le Dieu et la Bayadère ». Vous avez vu cela, mesdames? Pour se débarrasser de la foule des plaideurs, il criait à ses gens « Qu'on les condamne tous !» Et c'est lui, le malheureux, qui est mis en échec. « Êtes-vous méchant ?» fit Madame Palia à moitié rieuse, moitié scandalisée. « Le fait est que je le plains sincèrement, » dit Monsieur Palia, goûtant aux œufs à la neige. « Mon Dieu !» reprit Monsieur Jacquemin, redevenu soucieux. « Nous serons peut-être tous demain dans la même situation que lui. »« Que dis-tu là ?» s'écria sa femme avec un haussement d'épaule. « Les ouvriers sont pour vous, messieurs !» Puisque vous leur avez tout concédé. Monsieur Jacquemin répondit. Les foules surexcitées ne se possédaient plus. Sans doute, tant que le calme avait régné, les ouvriers s'étaient montrés reconnaissants envers les fabricants qui s'étaient soumis à l'application du tarif. Ils les avaient salués dans les rues, tandis qu'ils proféraient des menaces contre ceux qui avaient argué de quelques articles omis ou portés à un taux trop élevé pour repousser le tarif tout entier. Mais la situation s'était singulièrement aggravée depuis quelques heures. Ce soir, dans le quartier de la fabrique, on ne rencontrait que des visages préoccupés ou sinistres. Il y avait de la haine dans l'air, et une étincelle pouvait allumer un dangereux incendie. « C'est absolument mon avis, » conclut M. Palia. On était au dessert. M. Jacquemin versait dans les verres du vin de Lunel, muscat rosé. Et M. Berthoux continuait à plaisanter pour empêcher le repas de tourner au lugubre. Pierrette revint précipitamment. C'était M. Argensiol qui désirait parler à monsieur. Il attendait au salon. « Mais faites-le entrer !» dit M. Jacquemin. « Ou plutôt non, j'y vais. » Craignant qu'il n'eût à lui apprendre quelque grave nouvelle, il sortit aussitôt. Mais tous, anxieux de savoir ce qui se passait, quittèrent la table l'un après l'autre et le suivirent. Ils trouvèrent M. Argensiol arpentant le salon d'un pas fébrile, l'allure énergique. Sans attendre leurs questions, il parla d'une voix brève.
« C'était fini pour ce soir, apparemment. »
« Il n'y avait pas une demi-heure, on avait dispersé des rassemblements formés devant plusieurs magasins, et les ouvriers s'étaient retirés sans opposer de résistance. Mais ils se comptaient et étaient résolus à employer la force. Ils avaient décidé que le lendemain matin, ils iraient en masse, comme au 25 octobre, réclamer auprès de l'autorité l'exécution des clauses stipulées dans le tarif. On devrait essayer d'entraver la manifestation. À la préfecture, la résolution avait été prise de faire occuper dès la première heure par la garde nationale et la ligne réunie les 5 portes de la Croix-Rousse, afin d'empêcher les rassemblements de se former sur la place.
« Comment ? » s'écria M. Jacquemin.
« Mais ce serait de la part des autorités une insigne imprudence de mettre en présence des ouvriers la garde nationale dans laquelle se trouvent tous les fabricants. Oh, fit M. Palia, levant les bras au ciel. Nous voilà bien lotis.
Oui, croyez-moi, reprit M. Argensiol de sa voix rauque, tout semble annoncer une émeute pour demain.
Quel malheur, mon Dieu ! S'écria Mme Palia. La maîtresse de la maison commençait à s'inquiéter à son tour. Savez-vous, dit-elle, que vous n'êtes pas rassurant ? Et, comme elle jetait un regard à Pellegrin pour lui reprocher de lui avoir dissimulé la gravité de la situation, celui-ci, avec embarras, murmura.
On ne pouvait pas prévoir, ce matin, que la crise prendrait une tournure aussi alarmante.
Mais enfin, reprit-elle, cherchant à réagir contre ses idées pessimistes, et la garnison, qu'en faites-vous donc ? N'est-elle pas là pour contenir les tapageurs ?
M. Jacquemin haussa les épaules.
« La garnison ? Ah, il y avait bien lieu d'en parler. Le lieutenant-général Roguet était un brave militaire, disait-on. Mais il ne connaissait pas encore la ville. Il y avait si peu de temps qu'il était à Lyon. Puis, il était perclus de douleur et en mauvaise intelligence avec le préfet. Enfin, la garnison n'était pas nombreuse. 2500 hommes à peine. Qu'était-ce que cela, en présence de 30 ou 40 000 ouvriers exaspérés ?
Ces dames avaient fini par s'asseoir silencieusement près de la cheminée. Par contenance, Madame Jacquemin s'était emparée de la pincette et tisonnait. Les hommes restaient debout, ne savaient plus que dire. M. Argensiol, qui, dans sa préoccupation, n'avait pas salué ces dames, s'approcha de la maîtresse de la maison, s'excusa de son impolitesse, demanda de leurs nouvelles à Madame Palia et à Marthe. Mais il était pardonné d'avance. Gracieusement, on s'informa s'il avait dîné.
s'il voulait prendre quelque chose. Il répondit qu'il ne mangeait pas quand il avait de l'ennui. M. Jacquemin, lentement, se promenait de la porte à la fenêtre, semblant prêter l'oreille à des bruits lointains. Dans un silence de mort, Pierrette, atterrée de ce qu'elle venait d'apprendre, apporta le café. Ses mains tremblantes faisaient danser les tasses sur le plateau. « Mettez sur le guéridon. »«
Oui, madame, » répondit la femme de chambre d'une voix mourante.
« Occupez-vous de votre service, mon enfant, et n'ayez pas cette peur ridicule. Vous n'êtes pas encore perdu. »
Cependant, M. Jacquemin s'était arrêté près de la fenêtre.
« Entendez-vous ? » dit-il tout à coup. Les hommes s'approchèrent et soulevèrent le rideau. Ils entendirent des voix criant la Marseillaise. Puis, à la clarté des réverbères, ils aperçurent une cinquantaine d'ouvriers longeant le quai pour remonter à la Croix-Rousse. Les chapeaux rejetés en arrière, d'un air de défi, ils chantaient à plein gosier. Ils tournèrent dans la rue d'Algérie. Mais bientôt, des cris sauvages retentirent. Une autre bande arrivait, plus nombreuse, composée de gens en haillons, aux figures sinistres, criant sur l'air de la Carmagnole avec de grands gestes menaçants.
« Ah ça ira, ça ira, ça ira, les fabricants, on les pendra !»«
Allons !» dit résolument M. Argentiol. « C'est décidément pour demain. »